18h, 19h. C'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'actualité locale et citoyenne de Radio U sur le 101.1. On est le vendredi 24 mai, il est 18h. Ce soir, en première partie d'émission, nous sommes nombreux et nombreuses en studio. On va parler des groupes d'entraide mutuelle et plus spécifiquement des GEM brestoises La Boussole et Au Petit Grain. Havane et Marie-Christine de La Boussole, François, Thomas, Jean-Luc, Laure et Arnaud de Au Petit Grain sont avec moi en première partie d'émission. Puis on se replonge dans la 16e édition du Festival de la Radio et de l'Écoute, Longueur d'onde. Les Radio Campus animaient une émission en direct, en public. On écoute ce soir l'interview de François Angelier, maître de cérémonie de l'émission Mauvais Genre, le samedi soir sur France Culture. En fin d'émission, c'est le rendez-vous quotidien de l'économie autrement. Ce soir, dernier épisode de la série sur les jeunes engagés dans l'économie sociale et solidaire. On écoute tout de suite Pégase de The Slow Sliders et on se retrouve juste après sur Radio U.
Down the canyon, all day, down the canyon, all night, all around.
Vous écoutez C'est vous qui le dites sur Radio U. C'était le titre Pégase de The Slow Sliders. Avan, Marie-Christine, François, Thomas, Jean-Luc, Laure et Arnaud sont avec moi en studio. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Avan, Marie-Christine, vous êtes à la coprésidence du groupe d'entraide La Boussole. François, Thomas, vous êtes coprésident du groupe d'entraide Au Petit Grain. Laure, vous y êtes animatrice. Et Jean-Luc et Arnaud, vous êtes adhérents de Au Petit Grain. J'ai tout bon ?
C'est ça.
J'ai oublié personne.
C'est la même.
Les GEM, groupes d'entraide mutuelle, ont été introduits en France par la loi du 11 février 2005 pour, je cite, l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est les groupes d'entraide mutuelle ? Marie-Christine, peut-être que vous avez la réponse.
Alors, un groupe d'entraide mutuelle, qui est également une association, s'adresse aux personnes en souffrance psychique ou alors qui sont socialement isolées. C'est un dispositif qui a été créé en 2005, comme vous le disiez, sur Brest. Et donc, il existe trois GEM. Alors, il y en a un à Saint-Pierre, La Boussole, un à Bellevue, Au Petit Grain, et un à Lambézélec, qui s'appelle Quiréon.
Donc, ce soir, on a La Boussole et Au Petit Grain avec nous.
Au Petit Grain.
Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les GEM, ou est-ce qu'on a fait le tour pour le moment ? On va revenir un peu sur la description des GEM, de vos GEM en particulier. À qui s'adressent les groupes d'entraide mutuelle ?
C'est plutôt aux personnes en souffrance psychique, mais ça peut être aussi les personnes qui sont isolées socialement, donc qui ne sortent pas forcément de chez eux, qui ont du mal à rencontrer les gens.
Souffrance psychique, pardon, c'est, qu'est-ce que ça recouvre ?
Moi, je pense que le mot psychique, c'est pas le plus important. Je pense que c'est aussi la resocialisation, qu'on ait des problèmes psychiques ou pas. Et à ce niveau-là, le GEM fait du très bon travail. Et c'est grâce à eux, d'ailleurs, qu'on peut vous parler. Ça, c'est super bien. Voilà. Mais ça s'ouvre vraiment à tout le monde, moi, je pense.
Donc, les GEM sont pas des espaces médicalisés ou des voilà. C'est
On ne remplace pas les hôpitaux de jour ni les CMP. C'est vraiment un centre social. Comme le disait Jean-Luc, c'est pour se re-socialiser. Ça marche très bien. Voilà.
Alors justement, on va se pencher un petit peu sur ce que sont vos groupes d'entraide mutuelle, donc La Boussole et Au Petit Grain. Est-ce que quelqu'un veut nous présenter La Boussole, par exemple ?
Alors, La Boussole, du coup, on est à Saint-Pierre. L'association a été créée en 2008. Les GEM ont à peu près tous le même fonctionnement. Donc, c'est une association gérée par ses adhérents. On a le soutien de l'équipe d'animation. Mais les demandes de subventions et autres, c'est les adhérents qui les font. On fait des activités.
Après, quel genre d'activité
Nous, à La Boussole, ce qui fonctionne très bien, c'est les repas collectifs. Sinon, on a la piscine, on a aussi des cours d'anglais.
De l'équithérapie.
L'équithérapie, donc c'est de la thérapie via les chevaux.
Oui, en fait, on va au contact des chevaux, on les brosse, on peut les monter. Okay. C'est pas obligé.
Oui, c'est ce qu'ils appellent la médiation équine.
Ok. Voilà. Super. Bon, peut-être qu'on pourra revenir sur les autres activités un petit peu plus tard. Donc ça, c'est pour La Boussole. Est-ce qu'une personne de Au Petit Grain veut nous présenter Au Petit Grain ? J'imagine que c'est à peu près pareil, mais...
J'ai peur de dire exactement la même chose que la vanne. Je peux parler de un petit aparté de mon expérience personnelle, comment j'étais amené à arriver au Petit Grain. D'abord, j'étais un CATTP de Brest.
C'est un
centre d'accueil thérapeutique à temps partiel qui est médicalisé avec des infirmières. Et j'ai senti que finalement, j'y ai tout fait, que j'avais pas ma place. Mais par contre, il y a une activité qui me plaisait, c'était l'atelier d'écriture. Et donc, j'ai cherché des ateliers d'écriture en dehors du CATTP. Et ma compagne, qui était à l'époque au Petit Grain, m'a dit qu'il y avait un atelier d'écriture au Petit Grain. Donc, je me suis inscrit au Petit Grain spécialement pour pratiquer l'atelier d'écriture, sans savoir ce que c'était que, qu'un GEM.
Ah oui, à part que c'est une association.
Et finalement, j'y allais que pour l'atelier. Et puis, finalement, avec cette personne, on s'est séparés, mais on est toujours en très bons termes. Et puis, par mon changement de type de vie, j'étais amené à venir plus souvent au Petit Grain. Et là, j'ai vu que j'ai compris qu'est-ce que c'était qu'un GEM, qu'on ne demandait pas seulement de participer à des activités, mais d'être acteur. Ouais. Et puis, c'est là que j'ai pris des responsabilités. Et à un moment, je me suis dit, le GEM est important, il faut que tu donnes de ta personne. Et c'est là qu'on
m'a... Vous êtes co-président.
On m'a proposé d'être président à l'époque. Et maintenant, je suis co-président. Mais je crois que j'ai trop parlé, là.
Non, mais on va peut-être pouvoir rebondir sur ça. Vous êtes rentré via un atelier d'écriture, oui. Et maintenant vous êtes à la coprésidence. Pourquoi une coprésidence dans chacun de ces GEM? Je ne sais pas si un de vous veut nous expliquer.
Nous, à La Boussole, on a choisi de faire une coprésidence parce qu'on s'est rendu compte que les adhérents mettaient beaucoup de poids sur le dos du président. Et on a voulu répartir ce poids sur plusieurs adhérents. Parce que ça réduit le poids sur une personne. Et c'est surtout pour ça.
C'est pour répartir les responsabilités, voilà. En fin de compte.
Voilà, et donc nous, au Petit Grain, on cherchait surtout à avoir un fonctionnement plus démocratique, tout simplement. Donc plus près de la base, savoir que la personne la plus importante au GEM, ce n'est pas le président, c'est l'adhérent. Et être plus près de l'adhérent, c'est... ne pas avoir un chef en haut. De toute façon, le président n'a jamais été un chef. Déléguer ses fonctions. Et on est six co-présidents à La Boussole. Non, au Petit Grain. Et puis, ça se passe très bien. Tu veux dire quelque chose?
Est-ce qu'on a un autre d'ici?
Moi, je voulais dire que le GEM, au Petit Grain, ça fait germer les idées, ça fait germer les personnes aussi. Et de son appellation, le Petit Grain.
Alors justement, là, on a deux adhérents avec nous de Au Petit Grain. Est-ce que vous voulez nous expliquer pourquoi vous avez décidé d'adhérer Au Petit Grain?
Moi, c'est j'ai intégré le Petit Grain, c'est suite à un problème de santé. Et je m'isolais, puis donc j'ai été mis en relation via une personne. Au début, j'étais un peu réticent, je ne voulais pas trop m'y intégrer, puis je m'y sens maintenant très bien, très à l'aise, et j'y participe très régulièrement, puis je jardine, je m'épanouis dans mon action commune pour tous les adhérents, tous les participants, puis c'est bien, c'est une bonne ambiance.
Vous jardinez, donc il y a un jardin au Petit Grain, dans les locaux à Bellevue, c'est ça?
Exactement.
Et vous, Jean-Luc, c'est un peu pour les mêmes raisons que vous êtes... Ah oui, pardon. Vous êtes adhérent, qu'est-ce qui vous a plu?
Moi, je viens d'être à la retraite, et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose autour de moi qui pouvait m'intéresser. Et par le biais d'un collègue, j'ai appris que justement, le GEM proposait plein d'activités, comme a été dit. Et je me suis retrouvé. Au départ, moi aussi, j'étais un petit peu réticent. Et puis à la finale, on profite des activités. Il y a aussi des activités culturelles. Et par ce biais-là, ça permet socialement de pouvoir assister à des spectacles auxquels on n'aurait peut-être pas le droit si on n'était pas adhérent de cette association. Donc, il développe aussi l'aspect tout culturel, culturel qu'il peut y avoir. Et ça, c'est important, je pense, aussi, malgré tout.
Oui.
Et puis, le fait de se retrouver ensemble, de personnes isolées, de se retrouver ensemble, ça permet aux personnes, aux adhérents, de se remotiver, reprendre goût à la vie, reprendre confiance en soi. Et puis, j'en passe. Passe dessus de très bons moments.
En créant du lien social.
Et puis, je dirais aussi que ça impacte la vie tout court, parce que moi, le matin, j'ai mon réveil qui sonne à 7h15, et puis je me dis, il faut aller au GEM, et puis je suis content de me lever, et puis ça me motive, ça me stimule. Et puis, j'ai une vie agitée, bien remplie avec le GEM et ma vie. Et arrivé en fin de semaine, le dimanche, je suis claqué, puis je glande, je me repose, comme tout travailleur.
Parce que le dimanche, c'est le jour où on relève pas ses manches. On a d'autres coprésidents là ce soir. Pour quelles raisons vous avez souhaité, vous, devenir coprésident, passer de adhérent à coprésident?
J'ai voulu m'investir parce que avant j'étais isolé et puis je suis tombé sur des gens très très bienveillants et j'ai voulu participer à la vie collective. Voilà, donc au départ je ne savais pas trop comment faire et puis en assemblée générale en fait on a voté un bureau et puis j'ai proposé ma candidature et j'étais élu et puis avec d'autres et on fait plusieurs activités au sein du bureau pour proposer aux interdépendants également des activités quoi.
Là, vous êtes venus ensemble à Radio U nous présenter les groupes d'entraide mutuelle. Vous êtes liés au Petit Grain et la Boussole, vous faites des activités ensemble?
Oui, déjà on a un partenariat qui a été fait entre les deux GEM. Et on se retrouve sur la gym douce, par exemple, le vendredi après-midi. Et sinon, l'été aussi, on a les sorties communes. On essaye.
Comme des voyages, oui, Laure.
En fait, on essaie vraiment de faire le lien justement entre les différents GEM. Le GEM aussi à Quéréon, différentes associations, aussi le CCS. Enfin voilà, on fait vraiment en sorte de ne pas rester que entre GEM, faire vraiment le lien en fait sur l'extérieur, dans le quartier, dans la ville. Voilà.
Alors, on ne vous a pas trop entendu depuis le début de l'émission, mais vous êtes animatrice au Petit Grain. Quel est votre rôle, votre fonction dans ce groupe d'entraide mutuelle?
Oui, je travaille beaucoup donc, avec Stéphanie aussi, qui est animatrice sur le GEM La Boussole. Après, notre rôle principal, c'est vraiment de faire en sorte que les adhérents soient impliqués le plus possible en fait, dans leur association, parce que ils sont avant tout acteurs en fait, de leur association. Donc voilà, du coup, nous, on va essayer de développer ça. On fait le lien aussi avec les intervenants extérieurs. Et le lien dans le quartier. Et puis après, voilà, on est vigilant au bien-être individuel et puis aussi collectif. Pour résumer.
Est-ce qu'on peut venir vous rencontrer dans vos groupes d'entraide respectifs? Est-ce qu'il y a des permanences ou comment ça se passe?
En fait, on fonctionne plus ou moins en... On replie sur nous-mêmes, mais chaque année, il y a une journée porte ouverte qui a lieu au moment de la CIMS, où on a deux demi-journées au Petit Grain, où on est ouvert à toutes les personnes qui veulent. Et ça paraît dans la presse. Et puis, je crois qu'Avan a quelque chose à dire. Tu n'es pas d'accord avec moi?
Non, je ne suis pas. Parce que comme on n'est pas du même GEM, je ne peux pas dire... comment fonctionne chez toi. Nous, à La Boussole, on a des portes ouvertes, mais sinon, les personnes nous contactent souvent par téléphone pour prendre un rendez-vous. On aime bien ce premier rendez-vous pour présenter La Boussole. Et on fait le tour des locaux, on explique le fonctionnement de l'association. Et puis après, pour être adhérent, on demande 15 passages.
15 passages
En fait, on fonctionne avec... si la personne vient, même si c'est 5 minutes dans une journée, ça compte comme un passage. Okay. Et elle s'inscrit... du coup, il y a 15 passages. Et après, le bureau se réunit pour valider ou refuser l'adhésion. C'est très rare que ça soit refusé. Hein. C'est okay. Vraiment des cas...
C'est s'il y a des problématiques de comportement, oui, par exemple.
Oui, parce que dans les GEM, on demande à ce que les personnes soient stabilisées.
Okay.
Que ça n'entraîne pas la chute du groupe, oui. En fait.
Okay.
Et du coup, voilà.
Vous voulez rajouter quelque chose, Laure ?
Non, bah, juste pour dire, en fait, bah, nous, Un Petit Grain, c'est donc un mois de découverte. Et c'est vrai que quand la personne arrive, en fait, bah, on va faire un premier contact donc, avec l'animatrice et avec un adhérent, en fait, et pendant ce premier contact, cette personne va devenir parrain ou marraine donc, pendant ce mois de découverte. Et ce qui va permettre, en fait, à la personne de savoir aussi si le GEM lui correspond ou pas, en fait. Okay. Et puis après aussi, peut-être à savoir, peut-être c'est important de le dire, que le GEM, c'est pas... Voilà, on fait en sorte que ça soit pas que de la consommation, que la personne soit vraiment impliquée à part entière, en fait, dans son association, quoi.
Ce qui explique un peu le fonctionnement que vous avez à la boussole d'être adhérent, de passer un minimum, un nombre de fois minimum à l'association, au groupe d'entraide. Vous voulez rajouter quelque chose, Marie-Christine ?
Non, tout à fait.
Ok, très bien. Je ne dis pas de bêtises jusqu'à présent. Donc, les adhérents qui sont avec nous, là, c'est dire que vous avez réussi votre mois au petit grain.
Enfin, pour moi, je pense que je l'ai passé largement, mon mois de découverte. Ça m'a plu. Et je pense que je me suis investi légèrement pour augmenter le...
Il est modeste, beaucoup, beaucoup.
Beaucoup, beaucoup.
Enfin, voilà.
Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose que j'aurais oublié ? Je ne sais pas si vous avez pensé à des choses à propos de vos groupes d'entraide, oui ?
Oui, on a gestion... c'est l'ARS qui nous finance.
Agence régionale de la santé.
Régionale de santé, et dans leur statut ils stipulent qu'on doit recevoir des personnes en mobilité réduite. Okay. Et donc la boussole a fait les travaux nécessaires pour que leur établissement puisse accueillir les personnes en fauteuil roulant en particulier. Et nous, au Petit Grain, ce n'est pas encore le cas. Et vu l'importance des travaux qu'on a à faire, on souhaite finalement déménager et on cherche un autre local.
Oui, ce serait vraiment pour ne pas être repli sur soi et vraiment accueillir tout le monde.
Voilà, que ce soit accessible à tout le monde.
Voilà.
Donc si vous cherchez à la location, à l'achat, voilà. C'est des fois qu'il y a des auditeurs, qu'il y ait un bien immobilier. Vous voulez dire quelque chose ?
Ouais, si c'est possible, avec vue sur la mer. Non, on plaisante, mais ça serait bien s'il y avait quelqu'un qui peut entendre cet appel. Voilà,
ouais, merci. Et puis un petit jardin aussi pour planter des choux. Et des pommes de terre, des fraises.
Sans produits.
Sans produits, sans pesticides.
Voilà.
Est-ce que vous voulez rajouter autre chose ?
Oui, et puis on a aussi des projets. Par exemple, l'année dernière, on avait fait le défi bio et on est sensibilisé au problème de ce qui est bio. Et on faisait des repas bio. Et cette année, on a pour projet de faire un relais de paniers bio pour distribuer des paniers qui viendraient d'une association qui s'appelle Prélude. Et les distribuer dans le quartier, de façon à ce qu'on soit dans l'inclusion et
ouvert sur le quartier.
Ouvert sur le quartier, quoi.
Ok, donc ce serait un point relais pour les habitants du quartier.
Oui, oui.
Là, actuellement, vous êtes à Bellevue.
Oui, oui. C'est ça. Mais on compte trouver quelque chose à Bellevue, et si on ne trouve pas à Bellevue, dans la rive droite, quoi.
Non.
Je dirais la rive gauche.
Oui, la rive droite, c'est nous.
La rive droite, c'est la boussole. Et vous avez des projets également à la boussole, un peu similaires au Petit Grain ?
Non, pas pour l'instant. Enfin, là, on est en train de préparer un mini-séjour pour les adhérents.
Qui se déroulera à Saint-Malo.
Ok.
Sur la mi-juin.
Ok.
Voilà, sur une période de 3 jours, en fait.
Donc, si on est adhérent, on peut partir en voyage.
On peut partir. On a un minibus de 9 places qui est mis à disposition également, donc qui nous permet donc
d'être autonome en déplacement.
Oui.
Est-ce que vous voulez rajouter encore quelque chose d'autre sur vos groupes d'entraide mutuelle ? Oui.
Il y a une activité qui s'est ouverte, c'est aussi le yoga du rire, et c'est sympa aussi. Voilà, ça permet. Enfin, faut venir pour voir ce qui s'y passe.
Il ne faut pas oublier la relaxation non plus, qui, en début de semaine, nous permet de commencer cool la semaine, et puis relax, et puis détendu, après un week-end de repos.
Et la gym douce.
Et la gym douce qui est l'activité commune.
Pour être bien fatigué en fin de semaine et bien se reposer. Alors, on sent qu'on est en fin de semaine. Ouais. Mais on ne fait pas que se reposer c'est le week-end, bon, on fait aussi la fête. Hein. Ça, on sait faire.
Et merci pour ces belles paroles. Est-ce que vous avez des pages Facebook? Alors, je sais que pour Optigrain, il y a la page Facebook J'aime Optigrain. Donc, J'aime, G-E-M, au petit grain. La boussole, c'est un peu spécifique.
Oui, nous, en fait, on a essayé de faire une page, mais malheureusement, ça n'a pas accroché. Mais on a un compte Facebook. C'est J'aime Brest Boussole.
Ok. J'aime Brest Boussole. Donc on peut vous ajouter si on veut rentrer en contact.
Tout à fait.
Avec la boussole. Eh bien, merci à tous et à toutes d'être venus. À Van, Marie-Christine, François, Thomas, Laure, Jean-Luc et Arnaud. Merci d'être venus dans la quotidienne.
Ben, merci de nous avoir accueillis.
Merci à vous. Et vive Radio U. Hein.
Merci pour ce gentil petit mot. C'est vous qui dites, ça continue après un petit peu de musique. On va écouter Fire de The Red Goes Black. Si j'arrive à le lancer. écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'actualité locale de Radio U. Il est 18h30 pile poil. On écoute maintenant une des nombreuses interviews qui ont marqué ce début d'année 2019. Le 2 février 2019, Radio Campus France était présente au Festival de la radio et de l'écoute Longueur d'onde pour une émission en direct en public.
S'est joint à nous pour cette première partie d'émission François Angelier, créateur et producteur de l'émission Mauvais Genre, cabinet de curiosité hebdomadaire et nocturne de France Culture qui fait maintenant depuis plus de 20 ans la part belle à l'actualité culturelle de genre. Grands anciens, ésotérisme, roman noir ou encore fantômes d'Asie et d'ailleurs. Bonjour François Angelier.
Bonjour.
Pour ne pas avoir à vous poser la question, nous l'avons posée aux spectateurs du Freak Show que vous animiez avec l'équipe hier soir au Quartz. Qu'est-ce que, selon eux, le mauvais genre ? Et c'est un son qui ne part pas pour l'instant.
Énigmatique.
Énigmatique, on ne saura décidément pas ce qu'est le mauvais genre.
Fantomatique. Il ne veut pas être défini.
Ah, ah si, non ? Ah, je pensais que c'était le son qui partait. Plus tard.
Sinon, qu'est-ce que les mauvais genres pour vous ?
Bah justement, c'est les marges du cinéma, les marges de la musique, les marges de la radio.
Justement, se poser la question. Donc, ça peut être du polar, ou alors après, une question de genre. Mais je ne sais pas ce que c'est que le mauvais genre dans ces cas-là.
Bah, pour moi, il n'y a pas de mauvais genre.
C'est les seuls genres qui nous intéressent, en fait.
Les gens mal habillés, les gens débraillés, ça c'est le mauvais genre.
C'est tout ce qui est un petit peu borderline, on va dire.
Ça a l'air d'être un kaléidoscope de plein de choses autour du fantastique, du polar, de tous les sous-genres un peu populaires.
Ah, qu'est-ce que le mauvais genre ? Enfin, l'émission, c'est oui, c'est un mélange justement d'érudition, de drôlerie, d'intelligence. Voilà, pour moi c'est ça, mauvais genre.
Qu'est-ce que vous pensez de ces définitions ?
Oui, à peu près tout, c'est bien. Il y a la définition traditionnelle, un petit peu ancienne, les gens débraillés. Il ne faut pas se habiller comme ça, ça fait mauvais genre. Il ne faut pas se conduire comme ça, il ne faut pas mettre son dos contre celui de la chaise, ses coudes sur la table, ça fait mauvais genre. C'est une définition des années 50-60. Et puis, il y a la définition, je dirais... angoissé, psychologique, je ressentis une impression de mauvais genre, avoir ceci, avoir cela, et puis il y a tout simplement aussi les genres, c'est-à-dire les genres dont on parle, le polar, la science-fiction, l'érotisme, l'humour, l'aventure, tout ça. Donc l'éventail est assez complet, on peut dire.
Alors, est-ce que c'est toujours un mélange de peur et de fascination, le mauvais genre ?
Ben, ça doit l'être, sinon c'est un produit manufacturé, sec et conformiste, c'est pas intéressant. Le mauvais genre, c'est d'abord un sentiment, une impression, une sensation. C'est quelque chose qui vous traverse, à la vision d'un film, à la vision d'une scène, peu importe. C'est d'abord de l'ordre de l'expérience avant d'être de l'ordre du concept. Ça se vit beaucoup plus que ça ne se définit, ça ne se régularise pas, ça ne se réglemente pas. C'est quelque chose qui est toujours en état de débordement et en état un peu de glissement. Je veux dire, ça peut pas être toujours de cadré. Donc voilà, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez l'éprouver dans des conditions qui ne sont pas du tout arbitrairement mauvais genre. C'est-à-dire que vous pouvez être saisi par un sentiment de trouble violent, d'angoisse, à la vision d'une photo, à la lecture d'un texte ou d'un film qui apparemment ne l'est pas.
Et finalement, comment vous avez-vous été initié au mauvais genre ?
Comment j'ai été initié au mauvais genre ? Je vais vous raconter une anecdote que je n'ai pas racontée hier, à la soirée du Quartz. J'étais en vacances avec mes parents en Suisse.
C'est une exclusivité.
Et voilà, absolument. Et on traversait sur un bateau, je crois que c'est le lac de Genève. Et alors, bon, mes parents parlaient avec de la famille et tout. Et moi, je courais dans les travées comme ça. Et je récupère sous un banc... un fumettinéri italien, c'est-à-dire des bandes dessinées pour adultes basées essentiellement sur la violence, le sexe. Et j'en prends un, je ne sais pas ce que c'était, je le prends. Et je vois, prenant une dame qui était en train de graver sur la fesse d'une autre dame une croix gammée. J'avais 5-6 ans. J'étais un peu interdit, un spectacle qui ne m'était pas familier. Je lui ai tout de suite montré ça à mes parents, alors là, qui commencent à... Ils l'ont mis par-dessus bord en disant, voilà, c'est ma première expérience du mauvais genre. Et après, je l'ai retrouvé au contact d'autres choses, les affiches de la Hammer, certains films, notamment les films de Buñuel. Je trouvais que quand on n'était pas préparé, les films de Buñuel sont d'une intensité, un vibrato extrêmement mauvais genre. Voilà, puis après, évidemment, le mal n'a cessé de gagner.
Je vois.
Quand vous avez lancé l'émission Mauvais Genre en 1997, c'était quoi la place du cinéma de genre et de la littérature de genre sur France Culture, mais même à la radio en général ?
Oh, c'était très, 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 très modeste. Il ne faut pas non plus se présenter comme étant un défricheur, enfin quelqu'un qui aborde une contrée totalement nouvelle. On en parlait, des gens comme Michel Cazenave, au Panorama, on parlait de bande dessinée, Cazenave s'intéressait au fantastique. Il y a toute une tradition sur le fantastique et l'horreur à la radio, à France Culture. Il y a eu des débats à l'époque où les grands fantastiqueurs, les Marcel Brion, les André-Pierre de Mandiargue, sans compter le milieu de la SF, étaient vivants et écrivaient, publiaient. Ces gens-là étaient reçus, il ne faut pas non plus... on n'est pas quand même... Ils n'étaient pas exorcisés... systématiquement. Cela dit, quand on est arrivé, c'était effectivement des secteurs, le mauvais genre spécifique, c'est-à-dire véritablement, je vous dis, le manga, le western italien, les films de serial killer étaient assez mal vus. Quand j'ai annoncé dans une réunion de production qu'on allait parler des Vierges de Satan pendant une heure de Terence Fisher en VHS, on m'a regardé, l'air un peu curieux, l'air un peu interdit. C'était quand même des produits nouveaux. Et en tout cas, qui n'étaient pas l'objet de commentaires comme ceux auxquels on les a soumis depuis cette date.
Et quelle évolution du genre dans les médias vous avez pu constater, observer au fil des années ?
Une évolution qui est toujours inquiétante, c'est-à-dire comme toujours... On commence d'abord par censurer, par condamner, par mépriser, par exclure tout ce qui est indigne, tout ce qui est mauvais genre et marginal, n'a pas le droit à la... je dirais au plein feu de la critique, voilà. Et puis peu à peu, comme le mal gagne, il faut pactiser avec lui. Donc on finit par avoir des politiques beaucoup plus rusées, et le mauvais genre devient un produit, cette littérature populaire déqualifiée devient un produit commercial juteux, et on finit par en faire du marketing. Voilà, c'est ça. Donc il y a un nécessaire, enfin, je ne dis pas que c'est un nécessaire, il y a un inévitable mouvement qui fait que la marginalité va vers le centre, plutôt que le centre avale ses marges. Et à partir de ce moment-là, le pire est à craindre. C'est-à-dire que vous avez des produits qui sont dénaturés, qui sont consommables, et qui ne sont plus angoissants ni dangereux, et qui sont fort ennuyeux, mais fort financièrement fructueux.
Et est-ce que vous, du coup, ça vous a amené à faire évoluer votre émission ?
C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de concurrents, au sens où ce qui était de l'ordre de du scandale devient aujourd'hui de l'ordre du marketing, comme je l'ai dit. Donc, non, on va pas non plus, si vous voulez, se réfugier dans un underground de plus en plus under, tout simplement parce que les mêmes choses deviennent overground, donc on va pas, ni dans une clandestinité microscopique, ni dans une espèce de quête effrénée du scandale qui finit par devenir un maniérisme un peu saoulant. Au contraire, nous, on reste comme ça, on continue à parler des mêmes choses, à essayer de trouver à l'intérieur des choses qui n'en ont pas l'air le mauvais genre. Mais on essaie de maintenir cette espèce d'intensité. Et de toute façon, il ne faut pas trop se raconter d'histoire. Ce qui a l'air d'être aujourd'hui toléré, avalisé et permis, ce n'est pas forcément permanent. Je veux dire, il n'est pas interdit de penser que dans un an ou deux, un phénomène inverse, c'est que bon... ce qui amuse aujourd'hui scandalisera demain. Donc c'est... Ben voilà.
Finalement, en ce qui concerne votre public, est-ce que vous avez une idée de quelle personne écoute votre émission ? Et est-ce que au fil des années, une communauté d'adeptes s'est un peu formée justement sur
votre émission ? Ah oui. Bah oui, les réseaux sociaux ont signalé quand même pas mal d'adeptes, des gens touchés depuis longtemps. On a même un ami qui est devenu un ami, qui est l'archiviste général de l'émission, qui a toutes les émissions. Ah, il doit en avoir 900. Il est en train de faire un dictionnaire avec toute la liste. Vous voulez savoir, quand on a parlé de tel réalisateur japonais, il va vous sortir de bon. Non, il y a une communauté qui s'est créée pour la raison simple, c'est que quand on a démarré en 97, les sujets dont on parlait, si vous en étiez un féru connaisseur ou un amoureux, vous étiez un peu seul. C'est-à-dire que c'est effectivement un milieu de gens solitaires, un peu égarés, qui ont du mal à partager. Si vous aimez Marcel Proust ou René Char, il n'y a pas de problème, vous allez trouver des gens pour en parler. Si vous aimez Godzilla, en 97, c'est quand même un peu plus dur, ou un peu plus... Voilà. Donc on a un peu fédéré tout ce public qui était un public secret, éparpillé, et puis qui se structurait. D'ailleurs, là aussi, il ne faut pas non plus... Il y avait des festivals, il y avait des revues, l'étrange festival existait avant nous. Donc il y avait déjà un milieu, mais ce milieu a eu là une... je dirais, une tribune radiophonique hebdomadaire régulière, en contact avec l'actualité permanente, et notamment les festivals, parce que ça, c'est devenu un phénomène important européen. Aujourd'hui, toutes les communes ont un festival du polar, une commune sur trois un festival du film d'horreur, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Donc ça, effectivement, on a servi de tribune et de rediffuseur. On nous envoyait des choses, on renvoyait.
Bertrand Mandicot disait hier soir qu'il avait l'impression que l'émission n'était faite que pour lui, quand il l'écoutait.
Oui, mais ça c'est quelque chose auquel on travaille et qu'on essaie de reproduire du coup à chaque fois. C'est un rapport intime avec l'auditeur. C'est-à-dire on travaille sur des sensations qui sont le désir, la jouissance, la peur, la répugnance, qui sont des sensations extrêmement intimes. Ce qui vous répugne ne me répugnera pas. Donc, vous voyez, on est sur des choses très personnelles. Et donc, à partir de ce moment-là, le spectateur a l'impression qu'on s'adresse à lui. Si c'est un adepte des pratiques sadomasochistes, si c'est quelqu'un qui collectionne les petits Batman en plastique, le jour où on en parle, il est là, et il a l'impression que c'est pour lui. Et donc, alors, c'est peut-être pas toutes les émissions, mais très souvent, certaines personnes pensent que c'est pour eux qu'on parle, et effectivement, c'est à eux qu'on parle.
Et hier soir, vous parliez également de comment dire du fait que le mauvais genre pouvait être émancipateur.
Oui.
Comment le mauvais genre participe de comment la marge, ce qui est hors norme, donc le mauvais genre participe de l'émancipation, François Angelier.
Parce que à la limite, ce dont on parle, si vous en faites un objet de contemplation, de jouissance, d'étude, elle vous émancipe. Si vous affrontez vos peurs ou votre désir, d'une certaine façon, vous vous émancipez. C'est peut-être à ce titre que si vous n'en parlez jamais, ou si, vous savez, pendant longtemps, il n'y avait pas de photos érotiques. Il y avait des photos médicales, il y avait des magazines d'art. Et un jour, on appelait ça érotisme. Donc, on a fait un pas. Ben là, c'est pareil. Si les choses prennent leur nom, et si on peut aider à donner leur nom aux choses, je pense qu'on ira dans le sens d'une émancipation.
Est-ce que c'est comme ça que vous restez justement prescripteur un petit peu dans ce milieu ? Puisque justement, vous parliez de l'aspect marketing qui aurait tendance à dénaturaliser un petit peu le mauvais genre. Finalement, comment éviter de rentrer dans ce système-là ?
C'est-à-dire que nous, on a un fonctionnement qui est toujours le même. C'est-à-dire on est dans la sincérité, on est dans le plaisir et on est dans une sorte de... À la limite, quelque chose qui nous touche, on n'a qu'une idée, c'est de le retransmettre. Donc à partir de ce moment-là, on prend un risque qui est effectivement que ce qui nous touche ne touche plus l'auditeur. Mais c'est un risque à prendre. Et je veux dire, ça continue, je pense, à fonctionner comme ça et à bien fonctionner. Ce qu'il faut, c'est prendre des risques, c'est-à-dire se risquer sur des auteurs, des jeunes auteurs, des premiers romans, des premiers films. Je me souviens, on a invité, quand en 2003, on a invité gens comme Ludovic de Burm, Xavier Mauméjean, même Jean-Baptiste, enfin, même dans les chroniqueurs, vous voyez, quand vous vous dites, oui. Tiens, c'est amusant, Jean-Baptiste Torré aurait apparemment des choses à dire sur le cinéma. Vous dites ça en 1998, vous vous rendez compte qu'en 2019, effectivement, il avait des choses à dire et même à faire avec le cinéma.
Toujours autour de ces questions, hier encore au Freak Show, vous avez déclaré « L'ennemi au début a joué la censure, aujourd'hui l'ennemi est rusé, il fait semblant de pactiser ». C'est qui exactement l'ennemi ?
L'ennemi, c'est tous les gens qui cherchent à arrondir les angles et à faire qu'un objet de scandale devienne un objet de commerce. C'est évident. Vous avez vu, par exemple, d'un autre côté, est-ce que c'est l'ennemi ? Enfin, je dis l'ennemi parce qu'il y a une majuscule, il y a un côté démoniaque et luciférien, c'est toujours plus rigolo plutôt que de dire le grand capital, la structure, les réseaux, j'en sais rien. Mais effectivement, faut faire attention à cette espèce de marchandisation de tout ce dont on parle, quoi. Mais c'est inévitable, je veux dire, c'est à partir de là, bon.
Hier soir, vous a rejoint en cours de Freak Show Philippe Baudouin pour parler de peur et de fantômes. Il se trouve que dans la journée, il animait une rencontre hier sur les fantômes radiophoniques. Thibaut, qui nous a rejoint, s'y est rendu.
Oui, bah, c'est vrai que je suis toujours content d'être à longueur d'onde. C'est l'occasion de réfléchir à la radio de manière générale, de découvrir de nouveaux points de vue. Et à ce niveau-là, j'ai pas été déçu. Donc Philippe Baudouin, il est philosophe, il est réalisateur pour Radio France et Arte Radio. Il contribue parfois à votre émission. Mmh. Et il s'intéresse à ce qu'on s'attend plus à voir dans le cinéma de genre que dans nos postes radio. Les fantômes, donc, ces fantômes radiophoniques qui peuvent prendre plusieurs formes. Et je vous laisse découvrir ça.
Est-ce que tu sais ce que veut dire « Yo no quiero morir » ? C'est de l'espagnol, ça veut dire « je ne veux pas mourir ». Qu'est-ce qu'ils veulent, à ton avis, ces fantômes, quand ils te parlent ?
L'extrême ouest, finis terrae, la fin de la Terre, la mort de la Terre. Il y avait déjà là, géographiquement, une image funèbre.
Je crois que c'est Orson Welles qui disait que ce qu'il y a d'avantageux dans la radio, c'est que l'écran est beaucoup plus large. Oui, bah c'est ça, en fait. Et c'est l'écran du rêve, l'écran de l'imaginaire. Voilà, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Et j'ai essayé, dans le domaine de la philosophie, de m'intéresser à la radio. On a un peu tendance à oublier, c'est que la radio est une invention collective et une invention mondiale, finalement. En associant, en se fédérant à travers leurs différentes découvertes, les ingénieurs, les physiciens, donc Edison, Tesla, Marconi, Branly, Crookes, Lodge. Et ce qui est assez méconnu, justement, c'est l'intérêt qu'ont les gens de l'époque, ces savants de l'époque, pour les phénomènes de spiritisme, les phénomènes psychiques, les phénomènes de télépathie. Et ils se risquent, ils prennent vraiment des risques, à faire parfois entrer dans leur laboratoire des médiums et essayer de comprendre d'un point de vue qui est le leur, de physicien, de savant. Et c'est ce qui fait un petit peu la particularité des inventeurs de la radio. C'est que tous, vraiment unanimement, se sont engagés dans ces domaines-là, soit en observant scientifiquement ces phénomènes, soit en devenant croyants. C'est le cas de Lodge, par exemple, qui est vraiment devenu un fervent défenseur du spiritisme. La syntonie. Alors, c'est un terme qui est un peu oublié aujourd'hui, mais la syntonisation, c'est la mise en accord d'un émetteur et d'un récepteur. Là, je parle de la technique radiophonique. Hein. Ce terme-là, avant d'être utilisé pour la radio, c'était un terme qui était employé par les premiers parapsychologues pour parler des émetteurs et des récepteurs en télépathie. Donc la transmission de pensée, avant de parler de transmission radio, utilisait le terme de syntonie. Et celui qui a parlé de ça, donc un certain Frederick Myers, qui était un des premiers fondateurs d'une société de parapsychologie en Angleterre, a soufflé le mot justement à des amis travaillant justement dans le domaine de la radio. Et c'est comme ça que le mot s'est propagé et est devenu quelque chose d'assez fréquent dans le domaine de la technique radiophonique, la syntonie. Ces voix, pour ce qui est de la radio, et même du phonographe, à partir du moment où le phonographe fait son apparition dans les foyers, il y a quelque chose qui est extrêmement attirant parce qu'effrayant. Parce que ces voix, justement, qu'on prend un malin plaisir à écouter, à réécouter et à entendre, justement, à laisser s'insinuer comme ça dans le foyer, sont effrayantes, mais elles sont attirantes parce qu'elles n'ont pas de visage, justement. Et il y a quelque chose d'extrêmement ludique aussi, de se faire peur, hein, le plaisir de se faire peur, en fait. La radio, quelque part, c'est presque une machine à ressusciter. C'est presque une machine à ressusciter dans le domaine des archives. La force qu'elle a d'évoquer et de nous rendre présent quelqu'un par une profonde absence, c'est ça qui fait la particularité de la radio. C'est qu'on rend présent des absents, en fait, toujours. Que ces absents-là soient vivants ou morts, encore une fois. Et ce qu'on appelait au 19e les fantômes de vivants et les fantômes de morts, c'est encore valable pour la radio. L'archive, c'est ça. Et même le direct, il y a toujours un très léger différé qui est de l'ordre de la microseconde. Mais ce différé-là produit des fantômes. Et lorsque celui qu'on appelait le speaker au début du 20e et qu'on appelle aujourd'hui le journaliste ou l'animateur à la radio parle, quelque part il est déjà dépossédé de sa voix et lui-même devient un fantôme. On l'a oublié, c'est-à-dire que ça relève vraiment de l'inconscient collectif. Je pense qu'il y a un imaginaire qui agit toujours Ce que je disais, c'est que, qu'on le veuille ou non, ça agit toujours parce que c'est profondément lié à cette histoire, cette association complètement incongrue entre le spiritisme et la radio, au début de la radio, aux origines de la radio, agit toujours aujourd'hui.
Les fantômes radiophoniques de Philippe Baudouin. Merci Thibault. Philippe Baudouin, qui a d'ailleurs, tu l'as dit, qui est d'ailleurs déjà intervenu plusieurs fois dans l'équipe de Mauvais Genre.
Oui, alors justement, François Angelier, je voulais parler rapidement de comment s'était constituée l'équipe de l'émission. Est-ce que vous pouviez nous en parler un petit peu ?
Moi, j'ai un système très simple. Je teste les invités. Quand un invité me semble extrêmement performant, je tâche d'en faire un chroniqueur. Voilà.
Alors, vous lui dites ça après l'émission, c'est ça ?
Non, c'est beaucoup plus vicieux. Je ne dis rien du tout. Et puis, si j'ai été vraiment impressionné, ou si je sens, comme on dit aujourd'hui, qu'il y a un potentiel, après, je recontacte. Et ça a été le cas pour Jean-Baptiste Toré, qui est venu d'abord pour parler de son livre sur Carpenter, en 97, chez Dreamland. Philippe Rouillet, qui avait publié sa thèse sur le gore chez les Dominicains du Cerf. Christophe Beer, qui est venu parce qu'il avait sorti un livre sur la censure. Antoine Guillot, je le connaissais déjà. Céline Duchesnet travaillait déjà pour France Culture et donc est vraiment assez mis à travailler beaucoup pour Major. Donc c'est souvent la manière de fonctionner. Et puis il faut qu'il y ait un profil Jean-Pierre Dionnet aussi, qui a d'abord été un invité deux fois pour être ensuite un chroniqueur. Donc c'est ce qui fait que...
Est-ce qu'on peut rappeler qui est Jean-Pierre Dionnet rapidement?
Jean-Pierre Dionnet, c'est un des parrains du Mauvais Genre. Vous savez, on a toute une espèce de généalogie. Jean Boulet, le grand Jean Boulet, qui a tout inventé sur ce domaine depuis le gay cuir jusqu'à la cotation des bandes dessinées. Francis Lacassin, qui a réédité tous les grands classiques du populaire, et Dionnet, qui a énormément Métal Hurlant, Cinéma de quartier sur Canal+, qui est l'encyclopédiste du Mauvais Genre, qui maîtrise aussi bien les 25 versions de tel Superman, aussi bien que le cinéma italien ou japonais, bon, qui est devenu un ami et un membre régulier de l'équipe. Donc c'est un peu un système comme ça de réinvitation, mais sur un autre statut.
Vous avez dit hier soir que selon vous, le générique est un sas pour, oui, pour l'auditeur.
Et je le redis aujourd'hui.
Vous le redites aujourd'hui. Finalement, quel est l'ingrédient, quels sont les ingrédients que vous utilisez un petit peu dans votre cuisine pour créer ce générique ou pour créer vos habillages sonores durant votre émission?
Moi, je pense que effectivement, le générique doit être un sas, c'est-à-dire le générique est une manière de dire à l'auditeur, attention, vous entrez dans un domaine interdit. Vous savez, c'est un peu comme hier, c'est un peu comme la voûte sombre, qui vous fait passer d'un monde à l'autre, rentrer dans un château, passer d'un secteur, d'une zone à une autre. Donc ça, c'est un élément important. Ensuite, tous les ingrédients qui constituent un générique doivent être non pas des éléments d'information, mais des affects. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des cris, alors des cris de jouissance ou des cris d'horreur, mais des affects comme ça, et ça doit composer une sorte de symphonie d'affects, de symphonie de sensations, qui attrape l'auditeur et qui le font passer, volontairement ou pas, dans un autre univers. Et c'est pour ça que j'aime pas les génériques qui sont des espèces de portes battantes où il n'y a qu'à pousser, on rentre. Il faut un peu, faut traverser le générique.
Et est-ce que la radio perd de sa magie et de sa puissance en étant filmée, selon vous, François Angelier ?
Tout dépend comment on la filme. Si vous la filmez platement pour avoir une image témoin, ça n'a aucun intérêt, et là, elle perd tout. Si vous la filmez de façon, je dirais, radiophonique, si vous filmez la radio avec une idée derrière la tête et en cinéaste, en tout cas, ou en vidéaste, là, ça peut devenir absolument fabuleux. Tout dépend ce que vous faites en filmant. Si vous faites une image témoin, comme il y a des caméras de contrôle dans les parkings, bon, effectivement, il y a machin, il parle, d'accord. Mais si c'est vraiment filmé, alors là, un nouveau monde s'ouvre à nous.
Merci beaucoup François Angelier de nous avoir accompagnés pour cette première partie d'émission. Auditeurs, auditrices, si vous êtes sur France Culture le samedi soir de 22h à 23h, pas d'erreur, c'est Mauvais Genre.
Merci.
Vous écoutez C'est vous qui le dites sur Radio U. On vient d'entendre une interview réalisée par les Radio Campus lors du festival Longueur d'onde le 2 février 2019. Vous pouvez écouter l'émission entière réalisée au Festival de la Radio et de l'Écoute sur le Mixcloud de Radio U. On se quitte avec le dernier épisode de l'économie autrement. Aujourd'hui, à Brest, Raphaël nous raconte son année en service civique et son rapport à l'économie sociale et solidaire après quelques mois passés dans ce domaine. Quant à nous, on se retrouve lundi à 18h. Bonne écoute, belle soirée avec Love and Happiness et bon week-end sur le 101.
L'économie autrement, le rendez-vous quotidien de l'économie sociale et solidaire en Bretagne.
Alors aujourd'hui, c'est la kermesse. On est au BH Café. C'est une matinée d'initiation à l'économie sociale et solidaire. Je m'appelle Raphaël, j'ai 23 ans, bientôt 24. Je suis service civique au pôle ESS de Brest, qui est ADES, pays de Brest. L'ADES, c'est un pôle de développement de l'économie sociale et solidaire. Ça a pour vocation de soutenir les porteurs de projets ESS, de les orienter vers d'autres structures pour les accompagner, trouver des financements. On organise aussi des ateliers, des rencontres ESS pour se soutenir dans le réseau. Alors mes missions, c'était de promouvoir l'ESS. Au début, c'était juste ça, donc c'était pas très clair. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris tout le boulot de communication qu'avait ma responsable qui est partie en congé maternité. Donc j'ai créé du visuel, des contenus, des cartons d'invitation pour les différents projets qu'on avait, c'est-à-dire les after-work, pardon. Les décoder l'ESS, donc c'est des petits ateliers pour comprendre vraiment ce que c'est porté par l'ADES. Faire des programmes, la kermesse aussi, c'est aussi pour faire découvrir aux gens ce que c'est, sensibiliser un peu.
Moi, je suis en service civique sur toutes les questions d'économie circulaire. Donc, en fait, c'est pour lutter contre le gaspillage. C'est faire des ateliers bois avec les étudiants pour qu'ils créent leur propre meuble, par exemple. Comme participer à des événements organisés par la métropole sur
le temps qu'ils assimilent un peu ce qu'on leur a dit. Peut-être qu'après, ils vont se rendre compte qu'effectivement, ce qu'ils font, c'est proche. Le volontariat, c'est déjà proche. C'est entre le bénévolat et le salariat. Enfin, et que souvent, ils sont dans des structures. Par exemple, on a des volontaires qui viennent de structures qui sont dans l'aide à la personne, le lien social et tout. Donc, en fait, ils sont dans l'ESS et ils ne le savent pas. Systématiquement, à chaque fois que j'expliquais ce que je faisais, on me disait « c'est quoi l'ESS ?» Donc à chaque fois, il fallait que je réexplique ce que c'était. En fait, ce que je constate, c'est que personne ne connaît, enfin personne, le grand public connaît très peu en fait. Et moi-même, avant de devenir service civique, je connaissais les assos, les mutuelles, enfin, j'avais aucune connaissance vraiment. Après, c'était des mots qui me plaisaient. Je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. Et donc, du coup, je m'y suis intéressée. Mais c'est vrai que il y a plein de gens qui ne connaissent pas, alors que c'est hyper important. Et c'est comme ça qu'on change le monde, je trouve.
Ce reportage a été réalisé par la CorLab. Retrouvez-le en podcast sur corlab.org.
Tenho medo de ainda gostar de você. O que eu fiz não me dá chance de me arrepender. Tomo um susto ainda quando acordo sem ninguém. Prefiro pensar que tudo bem. Dou muita volta e meia. Ainda volto pra você. Dou meia volta e volto meio incerto do que eu vou fazer. Quando o rádio toca uma música de amor, penso que é comigo que conversa o cantor. Como ele sabe tudo que me aconteceu, mundo de estação também sou eu. Dou muita volta e volta e meia, ainda volto pra você. Dou meia volta. Certo do que eu vou fazer. E o que eu vou fazer? Tenho que pensar sozinho. Não vão me ajudar, eu vou decidir sozinho.
Joaquim, she's my
り返った部屋に一人、また今日もいる鏡の中の知らない男、空のグラス、耳鳴り、麻痺、どこまでも追いかけてくる昔の自分。
Cuando el radio toca una canción de amor, pienso que es conmigo que conversa el cantor. ¿Cómo es que sabe todo lo que me pasó? Cambio en la estación, también soy yo.
Dou muita volta